Le thème que j'ai choisi ce matin, il concerne la justice. C'est pas juste. Je pense que cette phrase, nous l'avons tous entendue et peut-être même que nous l'avons tous prononcée. Si nous ne l'avons pas prononcée, nous l'avons au moins pensée. Quand nous étions enfants, c'est sûr, mais même plus tard, adultes. En effet, dès le plus jeune âge, nous sommes confrontés à des situations où nous estimons que nous-mêmes ou quelqu'un d'autre, nous avons subi des injustices. C'est vrai dans une fratrie, c'est vrai même avec des parents, c'est vrai à l'école. Plus tard au travail, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos responsables, nos chefs. Mais estimer que c'est pas juste, c'est estimer d'une part que quelqu'un a été lésé, que quelqu'un d'autre a été avantagé, mais aussi que quelqu'un a mal jugé, que quelqu'un est responsable. Parce que finalement, quand on dit c'est pas juste, c'est que quelqu'un n'est pas juste. C'est quelquefois vrai, parce que les injustices ne manquent pas, mais d'autres fois, l'injustice, elle est tout à fait subjective, et c'est souvent la méconnaissance des faits qui fait crier à l'injustice. De toute façon, que ce soit justifié ou pas, le sentiment d'injustice engendre beaucoup de sentiments négatifs, des frustrations, des colères, peut-être même de la jalousie, quelquefois même des désirs de vengeance. Et il y a un domaine particulier où l'on entend souvent parler d'injustice, c'est lors de morts prématurées. J'ai choisi dans la Bible de lire un texte qui peut nous faire ressentir ce sentiment d'injustice. Et c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, les versets 1 à 8. C'est une histoire qui est connue, mais souvent connue superficiellement. Donc je lis dans Genèse 4, versets 1 à 8. Adam connut sa femme, Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn dressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Que pensez-vous de cette histoire? Ne pensez-vous pas que c'est pas juste? Je crois que beaucoup peuvent penser que c'est pas juste, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Déjà, bien sûr que pour ce couple, apprendre ce qu'est la mort en perdant leur plus jeune fils, parce que la mort, finalement, ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils apprennent ce qu'est la mort en perdant leur plus jeune fils. C'est pas juste. Dieu leur avait bien parlé de mort lorsqu'ils ont fait le mauvais choix de manger le fruit défendu. Mais c'est leur plus jeune fils que la mort vient frapper, c'est pas eux. Qui est-ce qui est coupable d'injustice? Le fils aîné jaloux qui a tué son frère? Ou l'éternel Dieu tout-puissant qui a permis cela? Et puis moi, j'avoue que j'ai trouvé aussi très injuste que l'Éternel regarde d'une manière favorable le sacrifice offert par l'offrande offerte par Abel et qu'il méprise l'offrande de Caïn. Pendant très longtemps, moi, ça m'a choqué. Caïn, c'était l'aîné. Et il faisait exactement ce que Dieu avait demandé à Adam, son père. On peut lire dans Genèse 1, 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe verte portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et plus loin, au chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Autrement dit, quand Caïn cultive la terre et qu'il en tire sa nourriture, il fait exactement ce que Dieu a ordonné à Adam. Et puis, le texte nous montre que c'est lui le premier qui a l'initiative d'offrir une offrande à l'Éternel en offrant le fruit de son travail. Et pourtant, l'Éternel ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est frustrant d'être dédaigné. C'est injuste. Abel, lui, il est berger. Est-ce qu'il élève des brebis pour consommer la viande? Le texte ne nous le dit pas. Est-ce qu'il élève des brebis pour en prendre la laine, se faire des vêtements? Le texte n'en parle pas. La seule chose qui nous est rapportée, c'est que il a offert les premiers-nés de son troupeau en offrande à l'Éternel. Nous ne connaissons pas toute cette histoire, nous ne connaissons pas tous les détails de cette histoire. Mais est-ce que, finalement, Dieu serait injuste en regardant d'une manière favorable le sacrifice d'Abel qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu avait demandé à Adam, et en ne regardant pas d'une manière favorable ce que fait Caïn? Le peu de choses que nous connaissons de cette histoire peut quand même nous éclairer. Tout d'abord, la naissance de Caïn. Ça a dû être un événement vraiment, vraiment extraordinaire pour ce couple. Se rendre compte qu'un être humain peut naître de la femme. Or, bien sûr, pour nous, c'est presque devenu banal, mais quand même, pour cette femme, Ève, d'un seul coup, elle se voit grossir, elle met au monde un enfant. C'est fabuleux. C'est encore fabuleux maintenant, mais on est habitué. D'ailleurs, Ève, elle l'exprime d'une manière assez particulière. Le texte de la version seconde dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Mais si on lit la traduction Chouraki, qui est vraiment proche du texte original, elle dit « J'ai eu un homme avec Yahvé ». J'ai eu un homme avec Yahvé. Cette réflexion me fait penser à une autre femme, 4 millénaires plus tard. Dans Luc, au chapitre 1, verset 35, il est écrit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Peut-être que cette femme-là aurait pu dire « J'ai eu un homme avec Yahvé. » Le Saint-Esprit l'a couvert et elle a enfanté un fils. Mais Marie, elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie a su reconnaître toute la part de Dieu dans la naissance de Jésus sans surestimer sa propre position. Mais revenons à Ève. Ce fils aîné qu'elle met au monde, Caïn, et qui lui fait découvrir qu'elle peut être mère, c'est réellement une expérience extraordinaire. C'est réellement un cadeau extrêmement grand pour Ève. C'est une découverte inimaginable. C'est la première fois qu'un être humain est mis au monde par une femme. Alors elle admet que Dieu y a sa part, évidemment, mais elle dit quand même que c'est elle qui l'a fait. Elle occulte complètement Adam et elle se met presque au même niveau que Dieu. Elle a fait un homme avec Dieu. Quand elle enfante son frère Abel, c'est tout différent. Le texte nous dit « Elle enfanta encore Abel » et Chouraki dit « Elle ajoute Abel ». Sa naissance, elle est devenue presque banale, c'est moins important. Ce qui était important, c'était ce premier être humain, ce fils aîné. Et d'ailleurs, on lui a enseigné ce que Dieu avait dit. Il a appris à cultiver le sol, comme Dieu avait demandé à Adam. En ce qui concerne Abel, on dit, lui s'occupait des troupeaux. Et là encore, je vais faire un bond dans le temps. Vous vous souvenez d'une autre circonstance où quelqu'un avait été mis un petit peu à l'écart. Je veux parler d'un certain David. David, Isaïe, son père, n'avait pas jugé bon de le présenter à Samuel quand Samuel est venu pour choisir un roi. Et lorsque Samuel est venu, il a passé en revue tous les fils aînés d'Isaïe. Et Isaïe était très fier de tous ses soldats, de tous ses fils aînés qui faisaient partie de l'armée de l'Éternel. Mais Samuel ne choisit aucun d'eux. Et il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre fils? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Et puis Isaïe dit, oui, j'ai un fils, mais il s'occupe des troupeaux. Il est à l'écart. Et le texte nous dit même que cet enfant était blond. Ça ne devait pas être très courant. Il était différent. Il était à l'écart. Eh bien là, j'ai l'impression que En ce qui concerne Abel, c'est un peu pareil. Il était à l'écart, il était un peu nomade, parce que lui, il suivait le troupeau, là où le troupeau trouvait à manger. Il n'était pas vraiment dans le cercle familial. Caïn, lui, il avait sa place de fils aîné. Il avait vraiment sa place. Lorsque notre cher Caïn voit que l'Éternel ne regarde pas d'un regard favorable ce sacrifice, il est vexé parce qu'il a la première place. La première place qui lui a été donnée par les hommes, elle lui va bien. Ce qu'il veut, c'est pas une place parmi d'autres, mais c'est sa place, la première place. Il trouve ça injuste que Dieu regarde d'une manière favorable celui qui est le cadet, celui qui garde les troupeaux, celui qui sait pas faire ce que Dieu a demandé, cultiver la terre. Mais pourquoi Dieu regarde d'un air favorable ce cadet? C'est pas juste. Et il le lui dit. Et peut-être plus que lui dire dans les champs, puisque comme ils sont seuls, eh bien, il le tue. Oui. Pourtant, même si Dieu n'avait pas regardé d'un regard favorable le sacrifice de Caïn, il ne l'avait pas pour tout autant négligé. Il lui avait dit que si tu agis bien, eh bien, tu ne laisseras pas le péché se coucher à ta porte. Mais Caïn était omnubilé par cette place qu'il voulait, cette première place, et il ne concevait pas que son frère, qu'il méprisait, puisse être regardé d'un regard plus favorable que lui. Lorsque Caïn tue son frère, il franchit le cap. Tant que la jalousie de Caïn était de la déception, elle n'était pas un péché. Elle aurait pu être un stimulant pour lui. Il aurait dû chercher à comprendre pourquoi l'offrande de son frère correspondait à la volonté de Dieu. L'offrande de Caïn n'était qu'un acte religieux. Celle de son frère Abel était un acte de foi, un foi de pardon des péchés. La mort physique de l'animal substituée à la mort spirituelle de l'homme. Abel est en réalité très proche de Dieu et Dieu lui révèle sa grâce. Avec son sacrifice des premiers-nés de son troupeau, il accomplit un acte qui symboliquement représente toute la grâce divine du plan de Dieu. A-t-il compris ce que Dieu a fait pour ses parents alors qu'ils n'étaient pas encore nés? Ils lui ont sûrement raconté comment Dieu avait tué un animal pour couvrir leur nudité en confectionnant des vêtements de peau. A-t-il compris que la mort annoncée par Dieu pour ceux qui refusent d'obéir peut être portée par un substitut? Ce qui me fait dire ça, c'est que dans le Nouveau Testament, on lit dans Hébreux 11, 4, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Abel est le premier héros de la foi mentionné dans Hébreux 11, parce que sa proximité avec Dieu lui avait fait saisir ce qu'est la justice de Dieu. Alors pourquoi Dieu permet-il son assassinat? C'est quand même injuste. Ben non, Dieu n'est pas injuste. Abel n'était pas apprécié à sa juste valeur sur la terre, et Dieu l'a repris à lui. Il l'a repris auprès de lui. Par contre, Caïn, qui plus tard a demandé la mort, et c'est ce qu'on peut lire dans Genèse 4, versets 13 à 15, « Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Caïn demande la mort comme châtiment pour son péché. Et Dieu lui accorde la vie. Dieu lui donne du temps sur cette terre pour qu'il ait l'opportunité de se repentir. À mon avis, ce texte est un des plus clairs dans la Bible contre la peine de mort. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et c'est ce qu'on peut lire dans Ézéchiel, au chapitre 18, verset 23. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ?» dit le Seigneur. « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Est-ce injuste qu'Abel, qui avait compris la grâce de Dieu par la foi, ait été rappelé à Dieu, et que Caïn vive pour avoir du temps pour se repentir ? Peut-être que la justice humaine le pense, mais sûrement pas la justice divine. Ce récit nous enseigne beaucoup de choses. Ce récit nous rappelle la grâce accordée par Dieu. Il nous rappelle ce que nous sommes, ce qui nous vient de Dieu. Nous sommes des hommes, des femmes, avec nos capacités, notre intelligence. Nous sommes des créatures extraordinaires et c'est un don de Dieu. Il nous rappelle ce que nous savons faire. Cela va de la capacité à procréer, comme Ève, à la main verte de celui qui cultive, comme Caïn, et à tout ce que nous sommes à même de créer. Nos dons sont des privilèges et nous n'avons pas à nous en vanter, mais plutôt à les mettre au service des autres. Dans 1 Pierre 4:10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Il nous rappelle aussi ce qui nous est révélé. Comme Abel, qui a eu par la foi la révélation du sacrifice qui serait agréable à Dieu, ou plus tard, comme Pierre, vous vous souvenez du texte de Matthieu 16, où il nous est rappelé que Pierre a eu cette révélation. Simon Pierre répondit à Christ, quand Jésus avait dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ensuite, ce qui nous est révélé plus tard, il nous rappelle que Dieu est proche de ceux qui sont mis à l'écart. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 18, et psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Alors, oui, l'Éternel est proche de ceux qui sont mis à l'écart, comme David, le jeune blond, dans un monde de brun, ceux qui se sentent hors du cadre, comme on dit. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Samuel 16, verset 10-12, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il se soit venu ici. » Et Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Je pense que cette phrase « Or, il était blond », c'était un petit peu la raison pour laquelle on le mettait pour garder les troupeaux. Il sortait du cadre. Eh bien, Dieu
ne laisse pas ceux qui sont hors cadre.
Sa grâce est pour eux.
Ce récit nous rappelle aussi la grâce de Dieu,
grâce accordée à Abel, grâce d'avoir le regard favorable de Dieu et grâce d'être le premier humain à rejoindre Dieu dans l'éternité.
C'est lui le premier, Abel, qui a rejoint Dieu dans l'éternité. C'est la grâce aussi proposée à Caïn, proposée mais quelque part refusée,
en l'incitant à dominer sur le péché, puis en lui donnant le sursis pour se repentir. Et là, on peut lire ce que nous dit Pierre, ce qu'écrit Pierre dans la deuxième épître au chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce matin, ce qu'on peut se poser comme question, c'est
qui parmi nous, un jour, s'est senti plus ou moins victime d'injustice? Eh bien, Dieu, en tout cas, ne laisse pas de côté ceux qui sont victimes d'injustice. On peut aussi se poser la question, qui parmi nous pense avoir déjà été injuste envers quelqu'un? Eh bien, si nous avons été injustes envers quelqu'un, Dieu nous laisse du temps pour nous repentir.
La troisième question qu'on peut se poser, c'est qui a gardé dans son cœur de la rancœur contre quelqu'un qui a été injuste envers lui
ou envers ses proches? Eh bien, là encore, Dieu veut éliminer de nos cœurs toute rancœur, toute rancune, toute jalousie, tout ce qui peut peser sur nos vies. Et c'est en nous approchant de Dieu que nous pourrons apprendre à pardonner, comme nous-mêmes nous avons été pardonnés. C'est pas juste, nous avons un Dieu qui est juste et qui veut nous apprendre ce qu'est la justice.